Je sais pas chez vous, mais chez nous, pour dire ce qu'on veut à Noël, on s'envoie des vidéos. Par exemple, mon fils m'a envoyé une vidéo avec des chiots. Ma fille, un concert de sa chanteuse préférée. Mais pour ça, il en faut des gigas. Surtout si je veux envoyer un documentaire sur les Bahamas à mon mari.
Avec le Noël spectaculaire de SFR, profitez de 50 gigas d'internet mobile pour seulement 10 euros par mois pendant un an pour les clients box, puis 25 euros par mois. Appelez le 1090, service et appel gratuit.
Offre soumise à condition, valable jusqu'au 8 janvier 2018 pour toute nouvelle souscription à forfait Power 50 gigas. Prix multipack sans mobile avec engagement 12 mois.
RMC. Forcément qu'il y aura des priorités, mais ça ne veut pas dire que la dernière des priorités sera une priorité aussi.
Le Super Football Show.
Vous comprenez ce que je veux dire?
Je vous entends parler, je vous entends écrire.
C'est intéressant d'avoir plusieurs arcs à son flèche, donc c'est bien.
Jusqu'à minuit, c'est l'Afterfoot, Gilbert Brébois.
Bonsoir à tous, l'After est là jusqu'à minuit comme tous les soirs en direct, bien sûr. L'After, l'émission qui dit tout ce que le monde du football pense tout bas. Jusqu'à minuit, Jérôme Bretagne est là. Jérôme, bonsoir.
Bonsoir Gilbert, bonsoir à tous.
Et Jonathan Macardy, Jonathan, bonsoir.
Salut Gilbert.
C'est soirée de Champions League. Même s'il n'y a pas de Champions League, c'est un honneur hein, pour toi d'être là. J'espère.
Quand tu vois dans ce pull, je sais pas trop. Hein.
Alors, si vous écoutez RMC, vous n'avez pas l'image par définition. Jonathan Macardy, costume 3 pièces, cravate mauve.
C'est normal. Quand on est joueur de foot et qu'on débute la carrière, t'as envie de découvrir la Ligue 1, t'as envie de découvrir la Coupe d'Europe, après la Champions League, ce qui est les premiers matchs. Tu t'habilles bien, tes chaussures elles sont. Non, quand tu viens au stade, tu t'appliques sur le costume et tous les chaussures elles sont nickel.
Alors, quand on a ton 500e match comme toi, tu viens avec ces trucs pourris.
Après, c'est fini. Après, t'attends.
C'est ça qu'on dit avec les nanas, on finit par l'hôtel du cul-tourné.
Et après, dans le foot, qu'est-ce qui te fait bander pour parler vulgairement? C'est les gros matchs. Quand t'es habitué à jouer des matchs.
Ça, c'est mentalité de petit joueur,
mais
monsieur.
Mais non, t'arrives en demi, en finale, là, c'est là qu'il faut être présent.
Et là, l'after, c'est la Ligue des Champions, mon vieux.
Et t'es sur les joueurs de la Ligue des Champions, donc c'est bien.
Peu importe, c'est l'after, c'est la Ligue des Champions.
Nous, on t'ouvre les portes.
Merci.
Bon, à toi de la saisir, l'opportunité.
Messieurs,
je t'en prendrai un pull pour Noël quand même.
Les avis de l'after concernant la Ligue 1 à mi-saison. Jérôme veut faire son petit bilan. Jonathan veut parler de la défense du PSG et moi, je vais vous parler de Saint-Etienne. Voilà pour nos avis de la première heure. Et ensuite, les rendez-vous habituels de l'after. Foot européen, Angleterre ce soir. Philippe Auclair aussi a préparé sa petite équipe de mi-saison. Alors, comme vous suivez tous la Première Ligue, vous direz si vous êtes d'accord ou pas.
Mais moi aussi, ça.
Avec
ça
les choix de. J'ai dit vous.
Non, t'as dit Philippe a préparé. Moi aussi, je l'ai préparé.
Très bien. On l'a tous fait, je crois.
On va comparer.
Ah ouais, vous aussi.
After story. Tiens, puisqu'on parle de Saint-Etienne, moi, je vais vous remémorer ce soir le jour où Saint-Etienne est vraiment descendu en Ligue 2. Avec qui comme coach?
Wallem.
Et.
Ah, il y avait un étranger.
Il y avait un duo?
Non.
Il y avait un duo. Wallem, Rudy Garcia.
Ah, Garcia, ouais, Garcia.
Ah, ça, Rudy Garcia, vous oubliez qu'il était là.
Ah, c'est vrai.
Dans ce plan.
Oh, le coquin, il nous en parle pas.
Il y était.
Non, mais ils sont sûrement descendus. Mais si, non, mais si les trois équipes devant n'avaient pas gagné plus de matchs qu'eux, ils seraient pas descendus. C'est ça, l'explication, sûrement.
Ah, voilà. Bien joué.
Exactement.
Et puis le quiz à 23h40 avec à gagner les bouquins Les légendes du foot. Et puis le fameux bouquin que tout le monde nous demande, là, les 40 ans de 11 mondial. Avec des magnifiques photos, on voit notamment dans Jérôme Bretagne avec son chien, donc c'est magnifique. Et puis le grand jeu de Noël, alors le grand jeu de Noël, vous le savez, c'est maintenant qu'il faut s'inscrire grâce à ruducommerce.com, plein de cadeaux, smartphone, ordinateur portable, il nous reste plein de trucs, hein, tablette, overboard. Donc pour tenter de gagner votre chance, vous envoyez Noël dès maintenant par SMS au 732 16, ou bien vous appelez le 3216, vous appuyez sur la touche 5. Bonne chance. Et puis pour nous joindre, débattre, 3216 bien sûr, hashtag RMC Live sur Twitter et Direct Studio sur l'appli gratuite RMC Sport.
Magnifique.
Demain, je vous le rappelle quand même, hein, demain, dernière journée des matchs aller. 10 matchs en même temps, à l'ancienne.
Tu vois, c'est bien,
pas de match
ça. Moi,
décalé,
j'aime bien,
moi. T'aimes bien? Oh, mais moi, ça, alors, moi,
toi,
ça me contrarie.
Toi.
Pour l'émission, c'est dur après.
Ben non, mais ça me contrarie
quand
parce
tu fais
que.
Des multiplex. Bon,
déjà, Jonathan a raison. Il n'y a qu'une heure d'after après pour discuter 10 matchs.
On va pas se mentir. C'est dur de voir les 10 matchs correctement.
Bah, ouais. Mais non, mais tu peux pas.
Non, mais c'est dommage.
Mais ça rappelle quand j'étais gosse, je regardais pas les matchs à la télé. Il y avait pas, c'était à la radio. Et j'avais la radio collée à mon oreille, là, comme ça. Et puis, je vibrais.
C'est beau, ces anecdotes de vieux.
Mais oui, mais il faut vivre avec son temps. Hein. Mais c'est la vérité. Imagine Gilbert.
Moi, c'est comme Jérôme. Hein. Non, mais demain, regarde, moi, demain, par exemple, Monaco-Rennes, j'aurais aimé le voir, par exemple.
Ouais.
Toi?
Et c'est fou que tout le monde ait envie de voir Rennes jouer.
Toulouse parce
que
Lyon, j'aurais aimé le voir.
Tout le monde a dit.
Bon, Metz Strasbourg, évidemment, j'aurais aimé le voir aussi.
Ouais, bah oui.
Voilà. Je vais rien voir, en fait. Enfin, je vais tout voir et rien
c'est
voir.
C'est un derby, Metz Strasbourg.
Ah, bah ouais. Puis,
bah, pourquoi?
Bah, parce que c'est un derby de l'Est, un derby historique. Ah ouais, il y avait Strasbourg-Mulhouse, mais Mulhouse a disparu.
C'est plus le Metz-Nancy, le derby de la Lorraine. Parce que là. La Lorraine est Grenat, la Lorraine est Grenat, la Lorraine est Grenat, et elle y restera.
Oui, mais.
Mais elle est pas au mieux en ce moment.
En Bourgogne.
Guignon. En Europe.
Guignon.
Ah, ça. En Bourgogne, ah, Guignon. Oui. En France, Guignon. En Europe, Guignon. Nous sommes les
forgerons. Allez, belle.
Ça, c'est quand tu joues en Coupe d'Europe. Ouais. Allez, on y va. Premier avis du soir, celui de Jérôme Jingle Rotten.
C'est là. La deuxième moins bonne meilleure attaque du championnat.
Ah oui, c'est pas mal. Alors, on va essayer de te comprendre mieux.
C'est dur parfois. Ouais.
Oui, parce que alors, tu t'es amusé à regarder un peu les budgets, ce qui se passait au niveau du classement, et t'en as tiré des conclusions à mi-championnat. Là.
Bah, écoute, parce que quand je regarde le premier bilan, c'est celui-là. À mi-saison, alors oui, il reste une journée demain et ça peut un petit peu remonter pour certaines équipes qui sont en difficulté, celle dont je veux parler, c'est-à-dire Lille, c'est-à-dire Saint-Étienne, c'est-à-dire Bordeaux. C'est des équipes qui flirtent avec la relégation, du moins Lille, ils y sont. Barragiste, mais bon, ils y sont pour l'instant. T'as juste au-dessus Saint-Étienne et Bordeaux. Et quand je regarde les budgets, bah, normalement, tu dois être... Je dis pas que les budgets, ça doit être systématique que le budget
refait que le classement.
Plus ou moins. Alors ça peut varier. En effet, il y a eu des mauvaises surprises pour certaines équipes et des bonnes surprises pour d'autres. Heureusement qu'il y a des petites équipes, les promus là, qui arrivent à faire ton Strasbourg pour l'instant. Et là, il n'y a pas que Strasbourg.
16e budget Strasbourg.
3, Amiens, toutes ces équipes qu'on voyait déjà redescendre pour l'instant, bah, elles sont au-dessus de Bordeaux, de Saint-Étienne.
Amiens, c'est le plus petit budget, ils sont 13e.
Ouais, bon, même s'ils sont moins bien actuellement, ils sont sur une mais quand même, quand je regarde Bordeaux, Saint-Étienne et Lille, alors il y a les résultats, ça c'est sûr. Il y a les entraîneurs et souvent c'est eux qui sont mis sur la sellette. Ça a déjà changé à Lille, ça a déjà changé à Saint-Étienne. Alors à Lille, par rapport à tout ce qui s'est passé, Saint-Étienne, c'est Oscar Garcia. Même si il y avait des rumeurs, c'est lui qui a démissionné. Bordeaux. Apparemment, le match de demain, il serait déjà sur la sellette, donc je veux bien.
Bordeaux-Montpellier, ouais.
Bien sûr que Gourvennec, bien sûr que Oscar Garcia avant Sablé, maintenant, bien sûr que Bielsa et celui qui est là actuellement, ils sont aussi responsables, d'accord. Mais ça montre quand même que ces clubs-là ne travaillent pas bien. Il n'y a pas que l'entraîneur. Il y a tout ce qui est mis en place, c'est-à-dire la cellule de recrutement. Quand je vois que c'est le grand flou à Bordeaux, avec des présidents qui sont là, qui connaissent pas, qui viennent pas forcément du milieu sportif.
De Martin.
Oui.
Il connaît le foot, Martin.
Ouais. Ouais, il connaît.
Il connaît le foot, Martin. Ouais. Quand même, quand tu l'entends parler. Ce qu'il fait.
Il a une connaissance très pointue de l'histoire de son club.
Oui, bien sûr.
Une culture football et tout. Mais est-ce qu'il connaît
La preuve que non. C'est qu'aujourd'hui, tout c'est. Mais il n'y a pas que Bordeaux. Je veux englober vraiment Saint-Etienne dedans, où c'est le flou. Alors, on peut parler aussi du président. Romeyer, qui est un amoureux du club, d'accord, mais le côté sentimental, au d'un moment, il faut peut-être le laisser de côté. Il n'y a pas que ça, et il faut travailler correctement. Lille, j'en parle même pas, le flou que c'est actuellement, avec la présidence, avec les problèmes avec DNCG, l'entraîneur qui s'en va, du moins qu'on vire, on en met un autre, là on va en mettre un autre, on en recherche un autre pour le mercato. L'arrivée de certains joueurs, ça me laisse sceptique, ça soit du côté de Saint-Etienne, du côté de Bordeaux et du côté de Lille. Donc au bout d'un moment, il faut pas être surpris que ces clubs-là soient sur une pente descendante. Alors pour Lille, ça n'a même pas été une pente descendante, parce que d'emblée, ils ont fait que perdre, donc ils sont restés en bas. Saint-Etienne et Bordeaux, c'est arrivé. Ils étaient sauvés au départ par des résultats qui étaient positifs, mais en termes de jeu, qualité de jeu, franchement, c'était pas du tout ça. Et aujourd'hui, ils sont en train de payer les mauvais derniers mois, les mauvaises dernières années. Et j'ai l'impression, alors j'espère me tromper, que sur la descente, alors il y en a qui vont être sauvés par les barrages, en effet, mais à part Metz. Mais imagine que Metz peut se réveiller avec cette victoire. Demain, il gagne contre Strasbourg. Oh, on sait jamais, avant la trêve, comme ça, t'arrives à gagner, tu recolles. Et t'as des équipes qui travaillent mal, encore une fois, parce que toutes ces équipes...
Alors, Metz, il y a un truc, quand même, qui joue pas pour eux. C'est que mathématiquement, dans l'histoire...
Oui, je sais, ça s'est jamais fait, mais mathématiquement, bon, après, c'est pas la première fois qu'on serait surpris. Hein, rappelle-toi, en Angleterre, quand on parlait de Leicester, on disait, mais c'est jamais arrivé. Jamais arrivé, ils seront pas champions. À l'arrivée, ils ont été champions. Et c'était jamais arrivé. Mmh. Et pourtant, la première ligue, il y a une histoire qui est encore plus forte qu'en France. Donc ça peut arriver. Et je te dis que, à travers tout ça, et ce qui m'inquiète encore plus, c'est que là, maintenant, voilà, on va virer les entraîneurs, on va virer les joueurs, on va recruter à la va-vite, parce que le mercato d'hiver, c'est un mercato de réajustement. Il faut pas se leurrer, il faut pas avoir des grands joueurs qui vont débarquer, qui vont te faire changer la façon de jouer, et surtout les résultats. Donc ça m'inquiète. Du côté de ces trois équipes-là, ça m'inquiète, et j'ai l'impression qu'on aura vraiment des mauvaises surprises pour un de ces trois-là, c'est sûr. Peut-être deux sur les trois.
Bah alors moi, je vais te dire, avant que Jonathan prenne la parole, moi, je trouve ça, ayant un côté, romantique, je dirais. Moi, ça me rassure un peu de savoir finalement que c'est pas le budget qui fait le classement final. Bah, c'est pas mal. Sinon, tout serait écrit, ce serait quand même assez relou.
Gilbert.
Là, moi, j'apprécie les surprises. J'apprécie de voir Nantes là où il est, même si c'est pas avec Nantes qu'on se régale le plus. Ça m'interpelle de voir Saint-Etienne également, mais enfin.
Non, mais Nantes, ils sont pas loin. Ce que je veux dire, ils sont 8e ou 9e budget, Nantes. Ils sont aujourd'hui 5-6e.
C'est pas un petit poussé, oui.
Non, mais tu as le droit d'être. Même si Bordeaux était 13e, Saint-Etienne 13e, 14e, ça peut arriver des saisons. Mais là,
ils ont qu'à s'en prendre eux-mêmes, les Stéphanois, les Bordelais, les Lillois. Là.
Et on va me dire, non, mais alors la grande phrase actuellement, c'est quand tu critiques et tu dis, ah bah oui, mais regarde, si tu gagnes un match, c'est vrai que c'est tellement serré. Mais c'est ce qui les sauve, ces clubs-là aujourd'hui. Mais quand même, si tu regardes pas les autres, ils ont 20 points au bout de 18 matchs. 20 points, mais c'est le parcours d'un relégable. 20 points. C'est inadmissible pour ces clubs-là, c'est tout.
C'est clair. Ouais. Ton avis, Jonathan?
Je suis d'accord sur le constat que la Ligue 1 va pas si bien. C'est ce que je me disais aussi. Je trouve que le niveau a baissé par rapport à l'année dernière, que ce soit dans le bas du classement. Quand tu regardes là, que ce soit à partir de 3, c'est donc 3, Bordeaux, Saint-Etienne, Toulouse, le LOSC, Angers, MS. Je trouve que le niveau est pathétique. Je trouve que le ventre mou aussi, c'est pas extraordinaire ce qu'on voit, que ce soit Guingamp, Montpellier, Amiens et compagnie. En revanche, là où je suis pas forcément d'accord, c'est sur l'effet de surprise que tu soulignais. Moi, je suis surpris. Toi, tu dis que t'es pas surpris. Moi, je suis extrêmement surpris de la situation du LOSC, qui, je trouve, dès le départ, s'était structuré intelligemment, en prenant d'abord le directeur marketing, Ingla, d'abord en prenant une pointure en directeur sportif, en prenant un entraîneur qui était cohérent sur le projet. Ouais. Là où ils se sont trompés, c'est sur l'entente des personnalités, mais je dois avouer que je suis surpris. Sur important. Bordeaux aussi,
Ils se sont trompés.
Je suis peut-être pas extra lucide, mais Bordeaux, j'avais l'impression que cet été, ça avait bien travaillé. Le mercato, je le trouvais pas mauvais. Le Rageur, Costil, je trouvais que c'était des bons joueurs qui étaient arrivés.
Je suis d'accord avec toi.
Et je suis surpris de ce qui se passe. Ouais. Saint-Etienne, un petit peu moins, parce que ça a toujours été flou dès cet été. On s'alertait pendant que vous étiez en vacances sur le fait que la direction sportive c'était pas clair, notamment avec David Ventier, dont je n'ai jamais vraiment été très fan. Mais je te rejoins sur le fait que le niveau est inquiétant. Je trouve que le niveau technique des matchs qu'on voit, c'est pas extraordinaire. Je trouve que même dans le haut du classement, c'est peut-être sûrement un peu moins fort que par rapport à l'année dernière.
Non mais sur
je trouve pas qu'on progresse.
Non mais sur
en début de saison, on était extrêmement, je sais pas si on se rappelle, mais on était tous extrêmement enthousiastes à l'idée que la Ligue 1 reprenne.
Et tu sais que la Ligue 1 aujourd'hui, elle est sauvée parce que souvent on entend le président de la Ligue dire voilà, Ligue 1 va bien, on a plus de supporters, du moins de spectateurs, de téléspectateurs, de ceci, de cela. Oui, mais heureusement pour lui que Paris assume, alors c'est normal avec le budget qu'ils ont en Ligue 1, heureusement encore que Paris est tout là-haut, mais heureusement que derrière t'as Monaco avec la politique qu'ils ont, c'est pas facile de rester en haut du classement. Tu peux avoir des saisons où t'es un petit peu dans le ventre mou. Imagine un Monaco moins fort ou un Monaco moins flamboyant qui est pas deuxième, qui est dixième au classement. Mais qu'est-ce que devient la Ligue 1 si tu retires Monaco? T'as Lyon, heureusement que Lyon aussi a bien bossé. Et moi j'étais sceptique sur le
mercato.
Non, pas sur le mercato parce qu'il fallait un renouvellement, mais sur ce que Genesio pouvait mettre en place et sa façon de manager. À l'arrivée, il m'a surpris aussi parce que il a dégagé une équipe type et Lyon ça va mieux. Alors oui, là contre Marseille, ça a été un peu tiré par les cheveux. Il y a eu cette défaite à Montpellier en Coupe de la Ligue.
3-4
mais ça peut arriver un coup de mou. Mais à l'arrivée, il a montré aussi qu'il arrivait à dégager le meilleur de son effectif avec un renouvellement. C'était pas simple. Mais heureusement pour la Ligue 1 que Paris, Monaco et Lyon sont là. Marseille arrive
Alors sans être flamboyant, et c'est ce que tu disais, et là je te rejoins sur la qualité technique même des équipes de tête. Quand tu vois l'Olympique de Marseille qui est quatrième aujourd'hui, franchement ça rassure pas le niveau de la Ligue 1. Quand tu vois les erreurs techniques à l'Olympique de Marseille, la façon de jouer qui est pas spectaculaire, où on se fait chier la plupart du temps. Alors ils ont les résultats, ils ont un état d'esprit, on est d'accord, mais il manque beaucoup de choses. Il y a que ces trois équipes, sinon Paris, Monaco et
je trouve que Monaco et Lyon sont moins forts que l'an dernier.
Oui, non, mais peut-être non, mais ils sont là. En étant
mais quand on parle du niveau général, je trouve que ces deux équipes, enfin c'est voilà, mais, à part Paris que je trouve plus fort que l'an dernier là.
Mais pour avoir un championnat fort, et c'est pour ça que je voulais parler entre autres de Saint-Étienne, de Bordeaux et de Lille, ouais, qui sont des places fortes de notre championnat depuis des années. Alors je suis peut-être nostalgique moi des années 80 où Saint-Étienne et Bordeaux étaient tout là-haut. Mmh. Lille ça galérait un peu, mais voilà, ça reste des équipes qui parlent à ma génération, aux gens d'avant comme Gilles. Gilbert, ça parle.
Et ben
ça.
Aux gens d'avant comme Gilbert.
Ben oui, mais t'es pas la même génération que moi, excuse-moi.
Quelle année toi déjà ?
Mais 78. Et toi, t'es au moins de 69. Ah non, t'es pas de 70, toi.
74.
Ah, c'est les cheveux, ça, en fait.
C'est ce, peut-être. Ouais.
Mais non, mais on a besoin, le championnat a besoin. Et qu'est-ce qui a fait la force l'année dernière ? C'est que ces équipes-là, mine de rien, le travail de Galtier à Saint-Etienne, moi, j'étais pas forcément pour qu'il continue. Je le disais, je l'ai souvent critiqué, mais Saint-Etienne, Bordeaux étaient là-haut. Et ça faisait du bien au championnat.
Ce qui a fait la force l'année dernière, c'est qu'il y a eu du suspense pour le titre, qu'il y avait deux très grosses équipes. Et ça donnait quand même un petit peu de choses, quoi. Là, tu vois, t'as l'impression que Paris est seul au monde.
Alors, bah tiens, le petit prince du parc sur Twitter qui nous dit, sur le hashtag RMC Live, qui lui dit, moi, je veux une Ligue 1 à 5 vitesses. Première vitesse, le PSG. Ouais. Deuxième vitesse, Monaco, Lyon, Marseille. Ouais. Troisième vitesse, les clubs de 5 à 10 qui vont se battre pour la cinquième place, là, peut-être européen en fin de saison. Mmh. Quatrième vitesse, les clubs de 11 à 19 qui jouent le maintien. Cinquième vitesse, Metz.
Metz, ouais, il a laissé Metz de côté.
Non, il a pas tort, il a pas tort.
Quentin est là, Quentin est supporter de Nice. Salut Quentin.
Messieurs, bonsoir.
Salut Quentin.
Est-ce que tu es d'accord avec Jérôme ?
Alors, dans l'ensemble, oui. Effectivement, je pense que c'est pas le budget qui reflète le classement final. Pour parler de Nice, effectivement, nous, on a le 10e ou le 11e, je crois, budget de France. Et c'est pas pour autant surtout sur les dernières années, qu'on finit dans la deuxième moitié de tableau. L'avantage pour notre équipe, c'est qu'effectivement, on a une idée de fond de jeu. Alors, au départ, là, pour cette année, ça a très mal commencé, dû notamment, contrairement à ces dernières années, un recrutement pas loin d'être catastrophique. Une mauvaise gestion aussi de Favre, mais on a quand même bien remonté, justement, grâce à notre fond de jeu. On n'a pas, contrairement à Marseille, on n'a pas cette mentalité, enfin, cette grinta à chaque match, qui est regrettable. D'ailleurs, mais par contre, je pense que sur le fond de jeu, on a limite, enfin, même pas limite, je pense qu'on a un meilleur fond de jeu que Marseille. Après, en mentalité, c'est autre chose. C'est pour ça qu'on s'est fait bouffer chez nous, alors qu'on gagnait 2-0 sereinement. Mais en tout cas, voilà.
La mentalité budget, individuelle aussi.
Exactement. Et je pense pas que le budget reflète vraiment le classement
Quentin,
final. Surtout,
c'est pas ça qui te sauve. Hein. C'est que Nice, si tu mets à part la saison avec Puel où ils jouent la relégation après une très belle saison où ils jouaient le podium, c'est que c'est un des clubs qui bosse le mieux en France. Enfin, ça fait des années maintenant qu'ils ont une cible d'encrochement top, qu'ils ont qui font tout dans
leur. Avec le centre de formation, ça va s'améliorer. Mais voilà, Puel au début, il a été beaucoup critiqué avec son passage à Lyon, etc. Mais il nous a fait un bien fou. Ça a été compliqué quelques années, mais il y a toujours eu cette idée de créer un fond de jeu. Et je pense que c'est cette idée qui manque à Bordeaux. Saint-Étienne, c'est un peu à part parce qu'il y a Galtier pendant longtemps, mais Bordeaux, Rennes, ces équipes-là, même si Rennes, ça un peu mieux, il n'y a pas une idée de fond de jeu.
Et le nez dans le recrutement aussi, hein, parce que Nice a eu quand même beaucoup de nez.
Et l'avantage de River, c'est un truc tout bête, mais River ne recrute pas seulement en fonction du talent. Il recrute surtout en fonction de si c'est des bons gars ou non. À chaque fois qu'on recrute quelqu'un, un joueur, je ne pense pas qu'il y ait des contre-exemples récemment, c'est vraiment des bons gars. Que ce soit Balotelli, Les Melou, Siri, tous ces joueurs-là qu'on
a recruté, même Schneider, d'ailleurs.
Schneider, il est blessé, il revient en janvier, on ne sait pas s'il va revenir. C'est un peu compliqué. Il y a Saint-Maximin aussi qui est un très bon gars. Et d'ailleurs, c'est un petit peu dommage que vous, petit aparté, c'est un petit peu dommage que vous parliez pas de Balotelli en ce moment. J'écoutais hier, vous avez pas dit un mot dessus.
Si, on en a parlé, quand même.
Avec, Pierre Ducrot, il en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que Balotelli, si en ce moment, il est exceptionnel.
Pierre Ducrot, c'est un défenseur, hein. Il parle des défenseurs, lui.
Ah, c'est important, c'est important. Mais c'est vrai que voilà, sur le budget, effectivement, quand on a envie vraiment de faire une belle saison, on peut pas s'appuyer seulement sur le physique et sur le talent d'un ou deux joueurs. Je pense notamment à Bordeaux, qu'on fait exactement l'exact opposé de notre saison. C'est-à-dire qu'ils ont très bien démarré et là ils finissent très très mal. Nous, c'est un petit peu l'inverse. On a très bien démarré, très mal démarré, on finit très bien. Dû notamment, je pense, à une idée de fond de jeu. On a toujours voulu mettre en place notre jeu. Et là, depuis 4 matchs, c'est 4 victoires d'affilée. Donc, je pense que, avec vraiment une idée claire de possession ou alors il y a limite de contre-attaque, un petit peu comme fait Nantes, Ranieri à Nantes, on peut vraiment arriver à quelque chose. choses. Il faut vraiment avoir les idées claires. Et c'est vraiment le fond de jeu qui peut...
Et donc le choix de l'entraîneur aussi.
Alors Quentin, tu parles du recrutement. Ok, le recrutement niçois, je pense que globalement il est bien. Mais enfin,
mais le recrutement là, il était plus ou moins raté.
C'est la première fois, c'est le premier
à le dire, Quentin. C'est que les mauvais résultats. Déjà, ils se sont pris tardivement à recruter certains joueurs. Ils ont eu du mal à gérer le cas Seri.
Il y a eu d'Albert.
Il y a eu le cas Seri où Seri, tu l'as perdu et encore, tu l'as pas encore tout à fait récupéré. Donc il a quand même perdu sa première partie de saison et c'était la valeur forte de cet effectif. Il y avait blessure de Cyprien aussi l'année dernière, donc tu manques, même si là il revient, il faut lui laisser le temps. Il y a eu
ils sont plantés, c'est rare pour le premier, mais bon, tu vois, le Racing Colis, je crois qu'ils ont mis 3-4 millions, c'est beaucoup pour un club comme Nice.
Ils
l'ont pris pour sa femme.
Je voulais finir ma phrase, mais la palme du mercato réussi, c'est Lyon. Excusez-moi.
Mais
il n'y a pas de débat là-dessus.
Qu'est-ce qu'ils ont raté dans leur mercato? Aussi, il y a le jeune Diop là qu'on voit pas. Enfin, Mariano, incroyable réussite. Traoré, bon là il est blessé, mais enfin globalement, c'est bien. Marsal, c'est bien. Marcelo, tout le monde pensait que ça allait foirer.
Non, c'est un, il est super. Mendy aussi.
Mendy, voilà. Franchement.
Non, mais en plus de ça.
Et souvent on est tombé sur Florian Maurice ici même dans l'after, Jérôme.
Mais moi j'étais le premier à le dire.
Chapeau les Lyonnais, le mercato, t'arrives à le championnat, il faut le dire.
Non, mais surtout qu'ils ont, comme tu dis, ils ont perdu quand même, Gonalo, leur
Lacazette,
capitaine,
Tolisso,
Lacazette, c'est des valeurs sûres. Ouais, mais il fallait un renouvellement. Après, c'est vrai. Fekir, à ce niveau-là, tu lui donnes les clés un peu du camion avec le brassard, et à l'arrivée, il a réussi à...
Plus Aouar, c'est pas un recrutement.
Ouais, non, mais ça, c'est aussi l'intelligence, comme tu dis, de la formation, de Genesio, de l'avoir replacé à un poste où personne s'y attendait, milieu relayeur, là, à côté de Touzard. À l'arrivée, ça fluidifie le jeu. Et en plus de ça, c'est que Lyon est bien placé au classement. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a il y a cette équipe lyonnaise, comme Monaco, c'est pareil, c'est des équipes qui vont progresser parce que il y a encore plein de choses. Tu parlais de Mariano très bien, il marque des buts. J'ai entendu à RMC là qui disait qui arrêtait pas de fracasser Mariano, et c'est Franck Leboeuf, je crois. Leboeuf et Dugas qui disait, mais Mariano c'est pas un joueur de foot, Mariano ceci.
Mariano 13 buts.
Mais Mariano il marque des buts, et Mariano il faut qu'il garde ça, ce rôle de buteur, mais c'est surtout que il doit s'améliorer dans le jeu collectif avec un Fekir, avec Depay, c'est pareil, Depay, et c'est pareil à droite, Traoré, qui s'est blessé. Bon, maintenant c'est Cornet qui joue un peu plus, mais avec tous ces joueurs-là, le jour où ils arriveront à trouver cette cohésion dans le jeu, ils l'ont déjà par moment, mais encore plus pendant 85-90 minutes, je peux te dire que Lyon va faire mal, mais comme Monaco, c'est pareil.
Dans quelques instants, Jonathan veut parler de la défense du PSG. Je vous signale un petit tweet de Vévert, supporter messin, qui nous dit, les gars, historiquement, le derby de l'Est, c'est Metz-Strasbourg. C'est pas à Nancy, même s'ils sont plus proches. Voilà. Et ensuite, Vévert en rajoute une petite touche sur les ultras de Nancy, avec lesquels il est pas pote, vraisemblablement. Voilà. C'est la précision de Vévert, hein.
Merci, Vévert.
Voilà. Et puis, sur Direct Studio, quelques messages, également. Tiens, par exemple, j'ai Gel Gava qui nous dit, et que dire de la faiblesse technique de certaines équipes de tête comme Nantes?
C'est ce qu'on disait.
Ils ont autre chose.
Toutes ces équipes-là, Gilbert, je te dis pas que c'était mieux avant, encore pareil, mais quand on disait que le niveau technique doit s'améliorer en Ligue 1, ces équipes-là, si le niveau technique s'est amélioré,
il a régressé.
Même si t'as le côté très tactique de Ranieri, que t'as l'envie, par exemple, d'Olympique de Marseille, équipes-là seraient jamais 3, 4, 5e.
Ça a régressé comparé à l'année dernière où t'avais quand même Paris, Monaco et Nice qui étaient vraiment.
Déjà, ça jouait bien.
Lyon et Marseille qui étaient pas mal aussi, c'est moins bien que l'an dernier.
Exactement, c'est vrai.
Alors les gars, il y a également des matchs ce soir que l'on suit. Quart de finale de la Coupe de la Ligue en Angleterre, à 10 minutes de la fin, Arsenal mène 1-0 face à West Ham, un but de Welbeck, et vraisemblablement Giroud vient de se blesser là. Faudra vérifier. Apparemment claquage, ça reste à confirmer, mais c'est ce qu'on me signale.
Pour Noël, voilà.
City mène 1-0 à Leicester, à 6 minutes de la fin, un but de Bernardo Silva. Voilà, deux autres quarts de finale, c'est demain, Chelsea Bournemouth et Bristol United. Et puis la Coupe d'Italie aussi ce soir, je voulais vous le dire. Naples Udinese, pour l'instant 0-0 après 66 minutes. La défense du PSG, Jonathan veut en parler, c'est tout de suite dans l'after, on vous attend au 32-16.
RMC, le super football show, l'after foot, Gilbert Brébois.
Jonathan Ricardi, Jérôme Rotten, ils sont là, c'est l'after jusqu'à minuit. Vous vous inscrivez pour le quiz 32-16, on a des cadeaux, des beaux bouquins à vous offrir pour Noël.
Comment ils trempent déjà
l'équipe
sur
L'équipe
Jonathan quiz.
Contre l'équipe Rotten.
Attention, je reste sur une
la semaine dernière, il a éclaté Daniel.
T'as jamais gagné contre moi. T'as jamais gagné pour moi. Arrête un peu. Calme-toi, t'as jamais gagné.
32-16, inscrivez-vous. Ça, et puis le grand jeu de Noël, hein, vous pouvez encore vous inscrire, vous envoyer Noël par SMS au 732-16.
Et puis, t'inquiète pas, c'est toi qui pourras tirer les boules, t'adores ça.
Ouais, j'adore ça.
Les gars, la défense du PSG, Jonathan veut en parler, Jingle Macari.
Jonathan, très bon dans le...
Meilleur en MMA qu'en foot.
Ah bah oui, souvent je comprends rien quand il parle de football, mais là j'ai tout compris.
Alors, et pourquoi est-ce que tu veux parler de la défense du PSG?
Ben, écoute, je trouve que le début de saison du Paris Saint-Germain, effectivement, il est exceptionnel, hein, comptablement, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions. Je trouve que l'équipe joue mieux par rapport à l'année dernière. On voit vraiment des phases de jeu très intéressantes, de très haut niveau. Il y a l'arrivée de Neymar et de Mbappé qui font que cette équipe a gagné dans son indice de spectacle. Mais le problème que je sens et que voilà, j'ai l'impression que ça se voit dans certains matchs, c'est que j'ai l'impression que la défense a régressé et qu'elle est pas au niveau par rapport aux exigences qu'un club comme le PSG devrait avoir. Alors oui, si tu regardes depuis le début de la saison, c'est que 14 buts qui ont été encaissés. 8 clean sheets, mais comme je vous dis, même si sur le papier ouais, et sur les chiffres, c'est pas mal, l'impression générale qui se dégage, à mon avis, elle ne suit pas. La défense, elle a connu quand même quelques moments d'absence assez inquiétants. Je pense contre le Bayern, dans un match certes un petit peu particulier parce que Paris jouait plus rien, mais où dans un match où par exemple la prestation catastrophique de Thiago Silva nous a rappelé sans faire de mauvais esprit les heures les plus sombres. Face à Strasbourg, ok t'en mets 4 mais t'en prends quand même 2. Des buts que voilà, c'est
ouais,
pas
après
plus,
je sais pas
plus,
si ça veut dire quelque chose,
mais c'est des buts que tu pouvais éviter.
Ils
avec
ont joué avec, tranquille avec, contre Strasbourg
avec, écoute, avec un Kimpembe que tout le monde réclame à corps et à cri dans l'équipe type, mais qui sur les deux matchs contre Strasbourg n'a pas été impérial. Et puis voilà, c'est cette impression générale qui donne pas un sentiment de sérénité et au contraire je trouve que par moment on sent une certaine faiblesse. Alors si on regarde cas par cas, Thiago Silva, j'en parlais contre le Bayern, d'une manière générale je le trouve bien moins tranchant par rapport à ce qu'il nous a montré même en championnat. Marquinhos, c'est pareil, je pense on sera tous unanimes de dire qu'il traverse une moins bonne période. On n'a pas l'impression qu'il ait progressé par rapport aux années précédentes et j'ai même l'impression qu'il est moins bon. Kimpembe, bah donc comme je le disais, une période qui est pas géniale avec notamment la double confrontation contre Strasbourg. Et puis les latéraux qui sont plus des contre-attaquants, Daniel Alves très bien, mais il y a toujours une faiblesse à mon avis côté gauche qui se voit et je trouve que les alignements sont pas toujours très carrés. Alors oui, les signaux, ils sont là. Mais à mon sens, il doit vraiment alerter la direction dès cet hiver pour voir comment rééquilibrer un petit peu cette équipe. Alors certains argueront qu'on est qu'en décembre, qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter, qu'il y a peut-être un petit trop physique, que les grandes équipes seront au rendez-vous en février, que Thiago Silva sera certainement plus en forme en février, que Thiago Motta manque parce qu'il était quand même une sorte de facteur d'équilibre dans cette équipe. Mais les indicateurs passés, notamment le match contre le Barça, à mon avis, ça doit quand même mettre la puce à l'oreille à Antero Henrique. Mettre le paquet sur Neymar cet été, c'était très bien. Mais depuis le début, moi, ce que je pense, et c'est depuis que Thiago Silva est arrivé, je pense qu'il manque un taulier à cette explication du Paris Saint-Germain. Alors, Thiago Silva très bien, c'est un très bon défenseur, je vais pas lui casser du sucre sur le dos, mais j'ai l'impression qu'il lui manque quand même quelqu'un qui, avec un certain charisme, une certaine méchanceté à ses côtés. Et pour l'instant, c'est pas avec Kimpembe ni Marquinhos, qui sont deux très jeunes, très prometteurs, que je vais pouvoir y arriver. Quoi qu'il en soit, en fait, je pense que quand on parle de cette question d'équilibre et de ce problème un petit peu défensif à Paris, on en revient quand même à ce qui se fait de positif au PSG. C'est que l'équipe joue mieux. T'as ce milieu avec Draxler, Verratti et Rabiot qui est moins solide que les milieux des années précédentes, mais qui assure plus de spectacle. Et voilà, je pense que c'est là en fait où il va falloir se poser des questions cet hiver. Est-ce que tu prends un autre défenseur central de métier, méchant, un peu costaud, pas forcément beau à voir, pour faire la paire avec Thiago Silva, ou alors est-ce que tu prends vraiment un remplaçant de Thiago Motta qui assure un peu plus l'équilibre au milieu de terrain et qui fera que la défense sera moins exposée. Je pense que la question elle a le mérite d'être posée. Mais les signaux qu'on a vus sur le début de cette première partie de saison, qui est quand même extraordinaire, je pense qu'il faut quand même les prendre en compte si tu veux gagner la Ligue des Champions.
L'analyse du Marseillais Macardi sur la défense parisienne, t'a-t-elle convaincu, Jérôme?
Non, parce que pour moi, non, parce que pour moi, ce qui est le plus facile dans le foot, c'est de défendre. Alors après, certains vont te dire, ouais, il y a un gros travail tactique à faire. Oui, d'accord, mais le plus dur, c'est de marquer des buts. Ça, c'est indéniable dans le football. Donc, la défense, même s'il y a eu des trous, mais à l'arrivée, c'est vrai que les performances, du moins le nombre de buts encaissés par le Paris Saint-Germain, parle pour la défense aujourd'hui. Même si en Ligue 1, on est d'accord, ils sont tellement au-dessus de certaines équipes qui sont rarement inquiétées, que il y a eu des problèmes au Bayern, par exemple. Le Bayern, c'est le match référence de ce côté-là, où en effet, il peut y avoir un petit signal d'alerte en disant attention. Attention, ce qui s'était passé l'année dernière à Barcelone, pour gagner la Ligue des Champions, il va falloir s'améliorer. Moi, sans aucun doute, il va falloir s'améliorer sur leurs prestations contre le Bayern. Il va falloir s'améliorer sur le fameux équilibre d'équipe, comme tu dis, parce que rejeter la faute, mettre des joueurs très durs sur les attaquants adverses qui ont moins de qualité de relance. Par exemple, le Paris Saint-Germain aime bien relancer tranquillement avec des joueurs avec cette qualité-là technique que sont Thiago Silva, que sont Marquinhos, moins Kimpembe qui est plus dans ce rôle-là. Même s'il est jeune, mais un petit peu de chien sur
mais les. Il essaye, hein, regarde contre Rennes, il fait une relance plein axe.
Oui, il y a faute, il y a carton rouge, mais déjà il y a pas faute à mon avis, et il fait une mauvaise relance. Ouais. Donc il essaye parce que c'est le plan de jeu du Paris Saint-Germain. Il y a plein de choses à corriger, mais moi je trouve que. Franchement, si tu me dis le Paris Saint-Germain va rester avec Thiago Silva, va rester avec Marquinhos, va rester avec Kimpembe, moi ça m'inquiète pas trop. C'est plus l'équilibre. Déjà savoir comment Kurzawa va réagir.
Je les mets dans l'eau aussi les latéraux.
Non hein. Mais parce que c'est important d'avoir des latéraux qui pensent à attaquer. C'est sûr, on demande beaucoup aux latéraux. On demande beaucoup aux latéraux du Paris Saint-Germain, que ça soit Dani Alves, ça soit Kurzawa. Ok. Mais au bout d'un moment, quand tu subis, il faut t'adapter à la situation. Quand t'as pas le ballon, il faut savoir bien défendre dans un premier temps. C'est ce qu'on demande à des latéraux. Des défenseurs sur le côté, c'est des défenseurs.
J'ai pas l'impression que cette équipe sait le faire.
Non.
Moi, je vois par exemple contre Marseille, qui sont pas des foudres de guerre non plus. Dès qu'ils leur ont mis un petit peu la pression derrière, c'était la panique.
Mais contre Marseille,
et ce qui m'a frappé notamment sur le match de l'OM, c'est qu'il y avait aucun patron derrière qui était capable de dire ok, sort la tête un peu de l'eau et quand même on arrête. Enfin,
mais il y a Alves quand même. Alors,
c'est pas un patron défensif.
Pour finir là-dessus, Gilbert, juste pour sur le match de Marseille par exemple, on sait très bien, on a vu les déclarations d'Mbappé à la fin, ils se sont fait surprendre, ils ont peut-être pris de haut cette équipe d'Olympique de Marseille, ils se sont dit bon. C'est un match comme un autre, alors qu'un classico, c'est pas un match comme un autre. Là, maintenant, ils se sont rendus compte. L'état d'esprit n'était pas bon. Donc, quand l'état d'esprit n'est pas bon, même si tu as des tauliers, comme tu dis, si tu abordes le match tranquillement, sereinement, et que tu te fais rentrer dans le chou, c'est difficile d'un seul coup de te dire putain, maintenant, il faut se réveiller, les gars, c'est trop tard. Là, tu te fais manger. C'est ce qui est arrivé contre Marseille. Mais j'espère, et j'ai quasiment la certitude, que sur le 8e de finale contre le Real Madrid, ils ne seront pas cet état d'esprit-là. Ça sera des guerriers, ça sera des mecs qui ont envie de bien défendre.
Je vous pose une question. Moi, j'ai ma réponse, mais j'aimerais la vôtre. Vous voulez quelle défense contre le Real ?
Moi, mais la défense, de toute façon. Mais la défense,
vas-y.
Mais Emery, il est là, et ça va être Daniel.
Mais celle que tu veux, toi ?
Ah, celle que je veux, moi ?
Eh oui.
Ah, aujourd'hui.
Parce que moi, par exemple, je veux Alves et Meunier latéraux.
Ouais. Ouais, mais.
Avec Thiago Silva et Marquinhos.
Oui,
c'est pas Kimpembe.
Avec Thiago Silva, Marquinhos, Thiago Silva, Marquinhos,
c'est la charnière,
c'est la charnière. Elle est là.
Meunier à droite et Alves à gauche.
Ah ouais, bien sûr. Mais là où
parce que Kurzawa a des vrais problèmes. Mais Daniel
Berchich a pas. Mais là où je te pose la question, c'est cite-moi une équipe qui a été en finale de Ligue des Champions sur ces dernières années et qui a pas un vrai patron derrière. Il y en a aucune.
Non, mais.
Il n'y en a aucune.
Jonathan, le vrai patron, mine de rien, c'est Thiago Silva. Alors oui, il a. Non, mais. Aujourd'hui, il est annoncé comme ça, on est d'accord.
Mais ça ne l'est pas dans les faits. Enfin,
non, mais
je le vois.
Ça ne l'est pas maintenant.
Si au Brésil, il joue plus et que c'est Miranda qui joue à sa place, c'est qu'ils se sont peut-être rendu compte un petit peu
avant.
Oui,
mais c'est vrai. Mais aujourd'hui, tu dois faire avec. Donc, tu dois faire avec ce joueur-là. Ce joueur-là, il a aussi toutes les critiques qui lui tombent dessus sur les gros matchs et tout ça.
A raison.
Mais peut-être qu'au bout d'un moment, il va se dire, bon, moi, j'ai un vécu, j'ai quand même beaucoup d'expérience.
Thiago Silva, on lui tombe dessus à la première occasion. Mais on oublie à chaque fois. Qui te marque le but contre Chelsea, par exemple,
C'est la seule fois.
Oui, c'est la seule fois.
Il y a quand même un passif qui est quand même les deux matchs contre le Chili avec le Brésil, en Copa et en Coupe du Monde.
Avec le Brésil, le
match contre le Barça. Moi, j'ai jamais trouvé.
Le Barça, tu veux dire, c'est Thiago Silva qui est responsable avec le Barça.
Non, mais il a sa part.
Tu veux que je te dise, quand tu joues contre des attaquants comme la qualité du Real Madrid, pour parler du 8e de finale, je pense que dans le 1 contre 1,
Ça reste un très bon défenseur.
Dans le 1 contre 1, c'est un bon défenseur, mais je t'englobe tous les défenseurs, même les meilleurs au monde. Les mecs, ils vont être en difficulté, dans tous les cas. Sur le 1 contre 1, tu seras en difficulté face à des joueurs comme Isco, comme Bale, comme Ronaldo, comme Benzema. Ah, tu vas être en difficulté avec des latéraux qui montent très haut.
Pas forcément.
Parce que le 1 contre 1. Mais si, Jonathan, parce que techniquement, ces joueurs-là, c'est comme Messi. Messi, tu mets le meilleur défenseur.
Mais attends, là, je vais aller dans ton sens. Mais tu vois, Thiago Silva, footballistiquement parlant, juste sur ses qualités intraciques, en 1 contre 1, c'est pas dit qu'il soit, qu'il soit à mal face à ces joueurs-là. Ce que je te parle, c'est de caractère et de capacité à réagir face à l'adversité, parce que l'adversité, tu vas en avoir.
Oui, mais après, c'est un joueur, Thiago Silva, il faut accepter aussi qu'il soit peut-être moins dans le duel qu'un Ramos, par exemple, plus intelligent dans l'anticipation.
Et donc, la conclusion, c'est quoi?
La conclusion, c'est qu'avec cette qualité-là, il va essayer de contrecarrer les attaques du Real Madrid.
Et donc, là où je veux en venir, c'est qu'à mon avis, il lui manque quelqu'un à côté.
Oui, mais bon, Marquinhos, moi, il me dérange pas. Kimpembe me dérange pas.
Ils sont jeunes.
Oui, mais ils sont jeunes. Mais
ce sera certainement deux meilleurs défenseurs au monde dans 3-4 ans.
Je veux dire, il y en a un qui est au Brésil, l'autre est en équipe de France. Alors, je veux bien que ça soit pas des titulaires indiscutables au Brésil.
Mais c'est un potentiel fou. Il y a pas de souci là-dessus.
Mais quand t'es aussi jeune, appelé en sélection, dans ces sélections-là, je te parle pas de sélection caca.
Non, bien sûr.
Je me dis que ces joueurs-là, ils ont quand même beaucoup de qualité. Voilà. Donc ça, de toute façon, on est tous passés par là. Ce que je veux dire, que t'as des gros matchs, t'es jeune, t'as pas d'expérience ou moins d'expérience que certains. Mais au bout d'un moment, il faut l'expérience, on s'en fout, tu la mets de côté. C'est là, tu réponds présent. Le match du Real Madrid, le 8e de finale.
Jérôme, ça sert quand même en Ligue des Champions.
Allez, les gars,
c'est quand même super important. Tu l'as sur Thiago Silva dans ces cas-là.
Accueillons Patrick qui veut participer au débat. Salut, Patrick.
Bonsoir monsieur.
Salut Patrick.
Patrick, est-ce que tu es d'accord avec Jonathan qui est pas convaincu par la défense centrale du PSG notamment?
Non, la défense centrale pour moi, c'est surtout au niveau mental, au niveau de Thiago Silva, parce qu'on l'a vu comme par rapport au Bayern, on voit que c'est un petit peu moins bien directement. Bon, il sort, on sait pas vraiment ce qu'il en était. Mais après, au niveau de Marquinhos, c'est un joueur que vous pouvez pas sortir. À l'heure actuelle, Marquinhos, vous prenez dans n'importe quel grand club européen, il a sa place.
Ah oui, mais il est moins bien depuis le début de la saison.
À part au Bayern peut-être, mais vous le prenez au Real de Madrid, pour moi, il est l'équivalent d'un Varane largement. Vous prenez à Barcelone, il a sa place aussi, dans tous les grands clubs européens. Après, un Thiago Silva, moi, ce qui me fait peur, c'est pas défense centrale. Moi, ce qui me fait peur, et je reviens vers vous par contre là-dessus, je vous rejoins, c'est que moi, j'ai toujours, ça fait longtemps que je le dis, Meunier, vraiment, je voudrais le voir à gauche. Bon, c'est son mauvais pied, mais je voudrais voir pourquoi, parce que Kurzawa, franchement, j'ai rien contre l'homme. Mais au niveau du joueur, c'est un joueur que quand je vois tous les matchs de Paris, j'en loupe pas un, et puis même des fois, souvent, je vais au stade, c'est que, il défend à 1m50 de son joueur. C'est le seul latéral que je vois que, au minimum, tous les matchs, il prend un grand pont. Il arrive à s'apprendre de vitesse. Il colle pas son joueur. Il laisse centrer son joueur. Mmh. C'est vraiment, à part faire des roulades derrière, des talonnades pour Neymar, parce que quand il a la balle, il veut montrer qu'il est un peu technique, il veut faire un peu joueur technique dans le club, malheureusement, dans l'équipe, parce qu'il veut pas se sentir un peu inférieur. C'est la seule chose qu'il fait. Après, ce qui manque aussi beaucoup Paris Saint-Germain, je trouve, parce qu'on parle ainsi de la défense, on parle du Bayern de Munich, mais rappelez-vous du match du mois de septembre contre le Bayern. On prend 30 tirs, on prend pas un but. Là, ils avaient fait quand même un match, quand même, qui était assez impressionnant au niveau défensif. On avait contré, on n'avait pas eu la balle. Ce qui nous manque énormément, c'est un Thiago Motta. Pourquoi? Parce que notre défense défend à 5 normalement. Et là, si vous voulez, avec un Rabiot ou un Verratti, ça se projette quand même beaucoup plus que Motta. Il va pas monter. Il va rester un peu en sentinelle. Il va toujours aider un petit peu. Il va ralentir le jeu, les attaquants.
Souvent, ils sont à 3 derrière dans l'axe, avec Motta.
Bon, voilà, c'est ce qui se passe. Et là, avec un Verratti ou un Rabiot, qui vont plus chercher les joueurs au milieu de terrain, qui vont faire un peu le travail de sable, qui vont se battre comme des chiens pour récupérer la balle, mais ils vont pas rester en sentinelle. Ils vont, même qu'ils soient en sentinelle, quand on a la balle, ce sont pas des vrais sentinelles quand on est en défense. Ils reprennent un petit peu leur truc de numéro 8. Ça veut dire qu'ils vont presser un peu comme Matuidi faisait avant. Ils vont vraiment presser les attaquants adverses. Et c'est ça qui nous manque, moi, je trouve, à l'heure actuelle. Quand là, Thiago Motta va revenir vraiment, j'espère, à plein régime, bon, malgré son âge, mais bon, c'est vraiment un joueur, même pour Alonso, encore la dernière. Vous savez, là, avec des joueurs comme ça, ils arrivent à compenser leur physique par leur expérience. Je pense que franchement, ça peut être pas mal. Après,
moi, je retiens Meunier à gauche. On l'a jamais vu. On a vu Alves à gauche.
En tout cas,
Patrick,
tu peux toujours, mais t'imagines ce que t'envoies au Real Madrid. Ça veut dire que t'envoies en disant bon écoute, on va avoir peur, on va défendre avant tout. Donc tu vas jouer avec Meunier qui va mieux défendre que Kurzawa. Non, Ce que je veux dire, au bout d'un moment, t'as un arrière-gauche qui est là, ou un deuxième avec Versich, même si lui joue moins. Mais au bout d'un moment, tu dois faire comprendre à ces joueurs-là que, hé, hey, mon coco, tu veux gagner la Ligue des Champions, eh ben il va falloir que tu... Bah, déjà, fais ce que t'as bien à faire, c'est-à-dire le bon contre-attaquant qu'il est, le bon joueur de football qu'il peut être, que je vois plus depuis bon nombre Kurzawa. De mois, quand même, ouais. Pour Kurzawa. Mmh. Mais j'aimerais bien le voir sur ce... sur cette... sur ces qualités-là. Après, défensivement, il a des lacunes, mais encore une fois, c'est dans la tronche. Il faut s'adapter à la situation. Donc Kurzawa, ben si tu subis, eh ben mon coco, tu dois être un grand défenseur. Tu dois être un bon défenseur. Tout le monde l'a fait. Patrice Evra, j'ai joué derrière lui. Tout le monde le critiquait défensivement.
En fait, t'étais censé jouer devant lui, hein. Si t'as joué derrière lui, c'est que j'avais un problème.
Ouais, là, c'est, tu vois, le lapsus. Non, mais il a joué derrière moi. Voilà, c'est plutôt ça. Il a joué derrière moi. Tout le monde le critiquait. Moi, je peux te dire que Pat. Quand il passait un match à défendre, mais il savait mettre le taquet quand il était avec toutes ses jambes, toute sa tête. Ce que je veux dire, mais non, mais et c'était pas le meilleur défenseur au monde. Mais sur les grands matchs, je peux te dire qu'il a fait des sacrés matchs défensivement.
Il a une green tag.
Allez, dans quelques instants, Saint-Etienne au programme. Juste un petit message sur Direct Studio. J'ai PSG Man qui lui dit n'oubliez pas Kimpembe, match énorme à l'aller contre le Barça. Bon, on ne jette pas non plus Kimpembe à la poubelle. Hein.
Mais Kimpembe, il peut jouer, il peut être très bon.
C'est une question d'association.
Allez, et franchement, Marquinhos Kimpembe. Et bah pourquoi pas contre le Real si jamais Thiago Silva n'est pas bien.
Saint-Etienne au programme dans quelques instants. On vous attend au 32-16 pour débattre. Supporters des Verts.
RMC, le super football show. L'afterfoot, Gilbert Brébois.
Jusqu'à minuit, on est là, c'est l'after bien sûr, avec Jérôme Rotten, Jonathan McCarty. Saint-Etienne, tout de suite au programme. C'est moi qui vais en parler. Jingle Brébois.
Bon, je balance, il les a mis dans un frigo. Voilà. Qui met des saucissons dans un frigo? Et là, tu sais que c'est Gilbert. Parce qu'il n'en mange pas. Donc, il ne sait pas à quel point c'est néfaste pour saucisses. Tu manges la charcuterie?
Bien sûr.
Le dernier déjeuner de l'after, on a mangé une planche de charcuterie entière.
Très bon, la charcuterie. Ah ouais, bon, c'est Jean-Louis, écoute, Jean-Louis, dès qu'il peut parler, dès qu'il peut expliquer qu'il est meilleur que les autres en bouffe.
La charcuterie, dans la charcuterie, de Jean-Louis, c'est très bon.
Il en parlait, on voyait pas, c'était pas filmé, mais quand il parle.
Avec ceux qui brillent.
Non, mais ouais, il a un peu de bave.
La charcuterie, c'est très bon, mais faut le rappeler.
Sauce! Et là, d'un seul coup,
Non, mais attends, c'est important. La frite, c'est très bon, mais avec modération.
Bon, vas-y, les Verts.
Alors, les Verts, alors, vous savez que demain, ils jouent à Guingamp, les Verts, qu'ils ont 20 points, c'est-à-dire qu'ils ont que 2 points d'avance sur le 18e. Et j'ai beau retourner le truc dans tous les sens. Aujourd'hui, je vois pas comment Saint-Etienne va s'en sortir. Faites une photographie actuelle du club. Effectif, cata. Il y a pas de buteur. Les seuls cadres, en ce moment, les deux cadres légendaires, Ruffier, Loïc Perrin, ils sont plus au rendez-vous. Sur le terrain, c'est la cata. Sur le banc, t'as un jeune entraîneur qu'on a envoyé un peu au casse-pipe, qui a pas d'expérience. Le pauvre, il fait ce qu'il peut. Sablé, compliqué. Regarde ce qui se passe dans les bureaux. Romeyé Cayazo, tu vois bien que c'est terminé. Il y en a un qui disjoncte, l'autre qui n'est quasiment jamais à Saint-Etienne. Vendredi, il est quand même allé à Saint-Etienne faire une conférence de presse. Il est pas resté pour le match. Quand même incroyable. Alors peut-être qu'il avait des bonnes raisons. Hein. J'espère, parce que si tu restes pas pour le match parce que t'as pas envie, c'est que t'aimes plus le foot.
C'est quand même compliqué quand t'es président.
T'aimes plus Saint-Etienne, je sais pas.
C'est compliqué dedans.
Comme tu dis, des bonnes raisons. Il y a une très bonne raison. Il peut y avoir des problèmes privés. Hein,
oui, il peut.
Ça peut arriver.
Tu rajoutes à ça les supporters. Les supporters, aujourd'hui, il y a des rondes organisées autour de l'ETRA par la police et la gendarmerie, organisées autour du domicile de certains joueurs qui sont directement menacés. Autour des du domicile des dirigeants. Je veux dire, on est quand même dans une situation, c'est la cata, mais partout. Et on parle pas d'un club, on parle pas d'Amiens qui vient de monter là. On parle d'un club historique de la Ligue 1, un club populaire qui a bien besoin de soutien. Moi, franchement, ça m'emmerderait que Saint-Etienne soit plus en Ligue 1. On a besoin de Saint-Etienne. Saint-Etienne, ça fait partie de l'histoire. Ça fait le derby. Il faut qu'on ait le derby tous les ans. Il faut qu'il y ait un Saint-Etienne avec un stade plein en permanence. Enfin, voilà, Saint-Etienne, c'est génial. Mais là, c'est mon avis du soir. Aujourd'hui, je ne vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Tout à l'heure, on avait, il y a plein d'anciens qui s'expriment, plus ou moins anciens. Tout à l'heure, on avait Patrick Revelli. Alors, Patrick Revelli, il est pas tout jeune. Il est de l'époque.
Il avait l'air touché.
De l'époque Jean-Michel Arquet. Mais le gars, il dit, Monaco, je suis même pas resté jusqu'au bout. C'est la honte, quoi. Je suis parti. Il y a plus rien. Il lui disait, quel est le dernier attaquant qu'on a sorti qui est international? C'est Gomis. Il y a combien de temps? Centre de formation, il y a plus personne. C'est le désert. Enfin, c'est.
Sorti du centre.
Oui. Enfin, alors t'as Perrin là qui joue en équipe première. On parlait d'attaquant. Hein.
Aubameyang,
tu vois, Aubameyang, il n'a pas été formé à Saint-Etienne.
T'as des jeunes qui arrivent des fois, mais là,
c'est-à-dire qu'à tous les étages, t'as l'impression qu'il y a rien qui fonctionne.
Et t'as oublié la cellule sportive qui est une catastrophe, quoi. Donc, avec Ventier.
Et t'as du mal à envisager une solution. C'est-à-dire, autant à Bordeaux, tu te dis, bon, il y a l'équipe pour se relancer, il peut se parler, tu parles peut-être un changement d'entraîneur, un ou deux bons recrutements et tout. Mais là, à Saint-Etienne. Enfin, moi, je. Et alors, ils veulent recruter. Sablé, il dit aujourd'hui en conférence de presse, un joueur par ligne, avec de l'expérience. Un joueur par ligne avec de l'expérience. C'est-à-dire, ça a un prix.
Du blé, ouais.
Et puis, tu vas trouver salariale. Au mercato d'hiver.
Et avec leur politique de salaire aussi.
C'est exactement ce que je te disais, moi, dans mon avis, par rapport au classement, où j'ai parlé, j'englobais Saint-Etienne avec Bordeaux. Mais moi, je suis inquiet aussi, comme je suis inquiet pour Bordeaux, c'est pareil, même si c'est différent. On est d'accord sur la trajectoire, du moins ce qui se passe à l'intérieur du club. Là, c'est vrai que t'as l'impression que il faut tout reprendre à zéro, quoi. Déjà, t'as envoyé. Alors, je veux bien que tu dis t'as changement d'entraîneur. Tu mets au casse-pipe un jeune entraîneur. Oui, c'est compliqué aujourd'hui d'entraîner cet effectif-là. Eh bon, écoute, il était pas obligé d'accepter. Ce que je veux dire, au bout d'un moment.
Ouais, mais ça, c'est
non, non. T'as une opportunité. Tu sens. Bah alors après, il faut accepter la critique aussi. Moi, Julien, je le connais bien. J'ai joué avec lui.
Non, mais moi, j'ai même pas envie de critiquer Sablé là sur la situation.
Lui. On peut pas le dédouaner non plus. Il y est pour quelque chose. Aujourd'hui, les résultats.
D'avoir accepté, tu lui en veux d'avoir accepté.
Non.
Parce que accepter, vu l'histoire qu'il a avec le club.
Moi, tu peux avoir un discours fédérateur. T'aimes le. Ce qui est normal. Il a une histoire dans le club.
Ah oui.
Mais après, il n'y a pas que ça. On en revenait tout à l'heure au discours que je te disais. Si t'as qu'un discours sur l'envie, mais des super entraîneurs, il y en aurait des milliers. Donc c'est pas le cas, c'est pas le cas de tout le monde. Donc peut-être que lui aussi, Julien, malheureusement, il est encore limité aujourd'hui à d'autres niveaux, pas qu'à ce niveau-là. Après, il y a à l'intérieur du club, donc t'as les joueurs. Mais aujourd'hui, moi je veux bien qu'on me dise, Saint-Etienne, il y a le mercato, absolument recruter 3 joueurs par ligne. Mais déjà, qui tu vas prendre? Quel joueur? Quel joueur avec de la qualité aujourd'hui? Parce que là, c'est un mercato pour tout de suite réagir dans une situation qui est catastrophique. Donc qui doit c'est à la va-vite, parce que c'est même pas travaillé ce mercato à l'arrivée. Donc tu vas prendre des joueurs, comme il dit, des joueurs d'expérience avec de la qualité un joueur par ligne. Mais franchement, mais qui c'est qui. Tu vas nous choper un Söderlund? Mais il y a que ces joueurs-là qui peuvent venir.
Ça déjà un Söderlund, c'est pas la peine d'en prendre la deuxième.
Mais ce que je veux dire,
ça reste Saint-Etienne, ça reste un club où quand même il y a un minimum d'attractivité.
D'accord.
Pour certains joueurs.
Mais minimum d'attractivité. Mais attends, au d'un moment, ils sont 18e, 17e ou 16e avec 20 points. Ça fait 10 matchs qu'ils gagnent pas un match. Et les joueurs, ils sont pas trop cons. Ils regardent les matchs. Ils se disent.
Est-ce que je vois les foot dans cette galère?
Le joueur le joueur. Le bon joueur, comme il dit Julien.
Un bon joueur, tu l'auras pas.
C'est ce qu'il a dit.
Un joueur à relancer.
Donc un joueur à relancer, mais tu crois qu'il va avoir que Saint-Etienne dans ces cas-là? Mais s'il a le choix entre Saint-Etienne, Bordeaux et Strasbourg.
Là, oui, non, faut pas que c'est la même idée.
Strasbourg, aujourd'hui, franchement. Et même si Saint-Etienne, j'adore.
Je sais pas s'il choisira pas Saint-Etienne plutôt que Strasbourg.
Moi, je peux te dire que...
Après, par rapport
pour être relancé, je suis pas sûr.
Prenons un joueur, je vous donne un mec qui me passe par la tête. Mauvais exemple parce que c'est un Lyonnais, mais un gars dans le cas de Grenier, par exemple. Quand tu sais qu'il a une qualité de footballeur,
ouais,
et qui joue plus dans son club.
Ben c'est le genre de profil.
C'est le genre de profil que Saint-Etienne va rechercher.
Ouais. Il y a un des mecs qui allait se faire en Angleterre aussi.
Donc c'est ces joueurs-là qui vont prendre, mais ils y vont direct. Mais pourquoi? Parce que ces joueurs-là au mercato, le mec qui a pas joué, qui veut être relancé. Donc ça veut dire qu'il a eu très peu de temps de jeu. D'un seul coup, un coup de baquette magique, pop. Une semaine de préparation là en hiver avec le groupe là début janvier hein, le match cacahuète de Coupe de France là, début janvier
Bédimo, par exemple.
Qui arrive mais Bédimo il a pas joué
c'est
un match Gilbert comment tu veux
c'est pas le même cas Grenier.
Mais Saint-Etienne, ils ont besoin d'avoir des joueurs là qui renforcent l'effectif. Mais tout de suite,
Après,
tu peux pas attendre un mois ou deux. Mais attends, je l'ai vécu. Non, mais Jonathan, excuse-moi, mais je l'ai vécu. Quand tu joues pas pendant 6 mois, 3 mois,
tu manques de rythme, tu mets du temps à revenir.
Automatiquement. Et comment un Bédimo va arriver? Il va enchaîner les allers-retours. Incroyable.
Ils veulent prendre Doria.
C'est Marcelo. Et tu vas pas lui dire tout de suite.
Ils veulent prendre Doria, apparemment.
Mais arrêtez.
Non, je déconne pas. Mais par rapport à ce que tu disais, moi, ça va pas
du tout. Du banc.
C'est sûr que ça va pas, mais il y a quand même, je sais pas aussi, la situation est grave, il y a pas de souci là-dessus, on sera tous d'accord, mais je me dis que quand tu regardes l'effectif, S'ils arrivent à trouver un mec qui remet un peu des buts, ou qui change d'entraîneur, qu'ils arrivent à réveiller Johnny, je trouve pas l'effectif si dégueulasse, je suis désolé.
À réveiller qui?
Johnny.
Mais c'est
oui,
qui,
non,
ton
mais
mec,
t'es obligé, tu l'as payé 9 millions, t'es obligé d'essayer, d'au moins essayer.
Mais essayer, mais ça je trouve depuis pas... qu'il est là, il arrête pas de le mettre, il essaye. Je trouve, mais arrête d'essayer.
Tu l'as dit toi-même, il a pas forcément les qualités pour être l'entraîneur.
Tiens, j'ai
d'une
des propositions. Mais Kevin propose Cheikh Diabaté, qui est aujourd'hui en Turquie.
Bah, très bien.
Ouais, bah, il faut lui payer le salaire qu'il a en Turquie, hein. Cheikh Diabaté. Bon, il pètera plus de buts.
Il était en prêt à Metz, non?
Il y a Cabo aussi, on me cite Cabo, parmi les joueurs peut-être.
Cheikh Diabaté.
Cheikh Diabaté, mais l'année dernière, mais s'ils le prennent, ils le prennent et ils sauvent grâce à qui? Jérôme.
Non, mais ils sauvent grâce à qui? On parle de Metz.
Mais ils sont dans la même situation, hein, dans une situation inquiétante.
Non, c'est là que vous vous trompez. C'est que quand t'arrives dans un effectif à Metz, les joueurs, ils sont formatés en début de saison pour jouer le maintien.
Ouais, ça,
là, Saint-Etienne, ils jouent pas le maintien en début de saison. Et encore moins, parce que les résultats sont bons en début. Avec Oscar Garcia, bon, c'est un grand mot, mais ils étaient en haut du classement.
Mal, ouais.
Là, ça fait 10 matchs qu'ils dégringolent, ils ont pas gagné un match. Donc, c'est comme Bordeaux, c'est la même chose. Là, d'un seul coup, là, par contre, ils prennent conscience que là, ils vont avoir chaud aux fesses. Il y a la trêve qui est très courte à Noël. Quand tu te retrouves là, où tu dois changer, tu te mets le bleu chauffe. Mais c'est dans la tête, t'es pas prêt à jouer le maintien. Les joueurs à Strasbourg, ils sont en haut aujourd'hui, mais ils jouent encore le maintien à Strasbourg. Ils sont au taquet, les mecs.
Mais
au taquet.
Je suis d'accord avec toi, mais je suis persuadé que si on regarde bien l'effectif.
On peut rendre Saadi à Saint-Etienne, à Strasbourg. Il a été formé là-bas.
C'est un bon coup pour Strasbourg.
Dans quelques instants, on est de retour. L'Angleterre au programme. L'Angleterre avec Philippe Auclair, son équipe de demi-saison, l'équipe de Jérôme, l'équipe de Jonathan, on va comparer. Et puis, derrière After Story, After Story, on vous remémorera la fois où Saint-Etienne est vraiment descendu.
C'était salaud
en Ligue 2. Non, mais ça donnera des motifs d'espoir aux Stéphanois, je pense, finalement.
Ouais,
et puis le quiz, 32-16, on vous attend. Et puis, je voulais également faire un point sur la Coupe de la Ligue anglaise, là, vous donner les résultats définitifs. Pour vous dire que Arsenal s'est qualifié pour les demi-finales en battant West Ham 1-0. Et actuellement, prolongation entre Leicester et City. Leicester a égalisé la 90e penalty de Jamie Vardy. Et là, il y a la prolongation entre les deux équipes, entre Leicester et
la 97e.
Et Napoli.
Et Naples s'est qualifié 1-0 face à Udinese, but d'Insigne à la 71e. A tout de suite dans l'after.
RMC, le super football show, l'after foot.